C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940. Écrivain, américain de bourgeoisie déclassée, catholique, hétérosexuel. Œuvre Gatsby le Magnifique, The Great Gatsby, 1925, première traduction française, 1926. Personnage Jay Gatz, dit Gatsby. Adaptation au théâtre, une pièce à Broadway en 1926, trois films de 1926 disparus, 1949, 1974 et 2013, quatre pièces de danse entre 2009 et 2017, un opéra en 1999. Je me demande si Gatsby le Magnifique n'est pas un roman qui a dépassé son créateur. C'est un grand roman, on s'en est rendu compte après la mort de Fitzgerald. Lors de sa publication aux États-Unis, il n'avait pas excessivement bien marché. Fitzgerald, qui à ses débuts s'était trop attaché à être un romancier de génération, valait bien mieux que cela. Il n'était pas un Bret Easton Ellis. D'abord, il n'a jamais été un vieux con. Bret Easton Ellis en est pour l'instant à un bon livre, le premier, moins que zéro, qui se trouvait bon parce qu'il captait le genre d'une génération, tout en contenant d'ailleurs une amertume et quelque chose de honteux qui semblait annoncer la ronchonnerie actuelle d'un auteur ayant perdu tout amour-propre artistique, s'il en a jamais eu. Commenter ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Pire encore, ricaner de la jeunesse. C'est non seulement le signe qu'on est resté enfermé dans la pensée de génération, qui est une non-pensée, mais la marque d'un homme qui a peur. Ayant peur, il réagit par le mépris. Fitzgerald, après le succès apparemment générationnel de son premier roman « L'envers du paradis » et des interviews où, avec un mélange d'esprit publicitaire, il avait travaillé dans une agence de publicité, de modestie et de gentillesse, il a laissé dire les journalistes qu'il était ce romancier-là, a su s'élever à tout autre chose. Heureux et damné pour commencer, puis ce Gatsby le Magnifique, son troisième roman. Troisième roman, mais pas troisième œuvre. On oublie souvent qu'avant Gatsby le Magnifique, il y a eu une pièce de théâtre, Un légume, qui est une satire de la présidence des États-Unis. Eh bien, avec Gatsby, il a aussi voulu faire une satire. Son premier titre de travail était Trimalcion, comme le personnage grotesque du satiricon de Pétron, auquel j'ai d'ailleurs consacré un personnage en personne dont on trouvera le lien sur le site de l'émission. Mon idée, en tout cas aujourd'hui, est que Fitzgerald, comme Stendhal qui était par moments persuadé d'être un nouveau Molière, s'est cru un peu moins bien qu'il n'était et a réussi un chef-d'œuvre en pensant peut-être avoir fait un peu moins. Et bien sûr, je ne sous-entends pas par là que c'est un grand livre fortuit, car on n'écrit pas un livre pareil sans une forte conscience artistique. Qui est le personnage de Gatsby? Pour en parler, je reçois Jean-François Merle, traducteur de Gatsby le Magnifique, dans l'édition Pocket. Jean-François Merle, à quoi ressemble physiquement ce Gatsby qui a à peu près 30 ans, je crois, au moment où l'histoire se passe?
Oui, il a 30 ans. Il a le même âge que le narrateur. Nick Carraway, d'ailleurs, c'est la première chose qu'il dit. Il voit un homme de son âge. Et c'est à peu près tout ce qui est dit. Il n'est pas décrit physiquement. Il y a une seule chose qui est décrite longuement et de façon très poétique, c'est son sourire. C'est-à-dire la première chose... Le narrateur découvre Gatsby quand Gatsby l'a invité à une de ses fêtes. Or, ils sont voisins, mais ils ne se connaissent pas. Donc le narrateur arrive, il s'assied à une table et il découvre un bonhomme et qui en réalité est Gatsby, qui se présente au bout d'un moment. Et le narrateur s'excuse de ne pas l'avoir reconnu, et l'autre lui dit de rien, et lui donne un sourire éblouissant. Il y a un paragraphe magnifique qui explique la beauté de ce sourire. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, ses vêtements sont décrits de temps en temps parce qu'il a des vêtements extravagants. Il a des costumes roses, des chemises en soie éblouissantes, des choses comme ça, mais c'est tout. Donc, libre au lecteur, en réalité, de l'imaginer, ce qui est assez classique dans la littérature américaine, hein, de décrire sans décrire, hein, pour favoriser l'imaginaire du lecteur.
Alors, Gatsby n'est pas son nom de naissance?
Non, Jay Gatz.
Jay Gatz. Et il est né dans le Dakota du Nord, pense-t-on?
Pense-t-on, parce qu'en réalité... Gatsby, c'est un personnage qui déboule à Long Island. Hein. Il déboule à Long Island, c'est un homme riche, manifestement riche. Il habite une grande maison, il fait des fêtes tout le temps. Et il est relativement jeune, donc, puisqu'il a 30 ans. Et dès lors, des tas de rumeurs commencent à circuler sur son passé, l'origine de sa fortune. Des tas de rumeurs, plus ou moins grotesques, et dont on s'apercevra au fur et à mesure qu'il y en a beaucoup qui sont vrais, on apprend ça vraiment à la fin du livre, et je n'en parlerai pas.
Qui raconte
en réalité son
parcours.
Son parcours, oui, qui est un parcours tout à fait étonnant.
Alors, dites-moi, quel est ce parcours ?
Ce parcours, c'est un jeune soldat. Il est soldat. Il est mobilisé pour aller faire la guerre.
Il n'a pas été un peu à l'université avant ?
Il est allé un peu à l'université avant, oui, mais sans.
Il n'est pas resté.
Il est mobilisé en 17. Et donc, il part. Il part sur le front. Et quand il où il a une existence véritablement une posture de héros.
Pas une posture, c'est un véritable.
Plus qu'une posture, évidemment. C'est un véritable héros. On nous raconte.
C'est illustré au combat.
Oui, c'est illustré au combat de façon même extraordinaire. Hein. Et pour autant.
En France, dans la Marne et dans l'Argonne.
C'est ça. C'est plutôt dans le nord, dans le nord sur le front. Et une fois qu'il est démobilisé, il veut retourner aux États-Unis pour poursuivre sa vie, hein, parce qu'il a laissé en plan des tas de choses. Mais ça va pas se faire immédiatement. Comme beaucoup de soldats démobilisés, surtout lui qui est un héros, donc hein, qui est couvert de médailles. On va lui dire, bah écoutez, on vous avait interrompu vos études, donc on va vous envoyer à Oxford. Et il va partir à Oxford poursuivre des études un peu contre, je vais pas dire contre son gré, mais il a pas demandé grand chose en réalité. Il veut retourner aux États-Unis.
Et ça, pardonnez-moi, mais d'ailleurs, c'est une chose qui n'est pas complètement assurée dans le roman. On dit qu'il est allé à Oxford, ça fait partie d'une des rumeurs. Peut-être qu'il y est allé, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y est allé ?
Il y est allé, enfin du moins, c'est ce qu'il raconte Annick à la fin.
Lui, il le raconte, mais est-ce que c'est vrai ?
Je pense que oui. En tout cas, le narrateur le croit. Hein, et moi, en tant que lecteur, je l'ai cru. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi se serait-il vanté de ça ? Il n'y a pas forcément besoin de s'en vanter.
C'est un peu, quand même, c'est peut-être assez prestigieux. Il est là pour épater une certaine catégorie sociale américaine, donc il aurait pu inventer ça.
Oui,
de la même façon
pas.
Qu'il a ce tic de langage de dire old sport tout le old temps, sport, qui est une expression anglaise et pas du tout américaine. Ouais. Donc, vous ne trouvez pas qu'il y a une ambiguïté, ou qu'il aurait pu l'inventer ?
Il aurait pu, mais à ce moment-là, je pense qu'il l'aurait mis en avant s'il avait voulu. S'en glorifier. Or, ce n'est pas le cas. Il n'en parle pas. Hein. Donc, il y a une rumeur qui court. Mais il y a juste à la fin où il raconte que, il est allé à Oxford. Je ne me souviens plus bien, mais je ne crois même pas qu'il ait terminé son cursus universitaire.
Non.
Hein, il laisse tomber au bout d'un moment et il rentre aux États-Unis. On est en pleine prohibition. Et là, il a une idée fixe, c'est faire fortune. Mm-hmm. Et il va faire fortune. Il va devenir bootlegger, plutôt dans la région de Chicago, qu'on appelait le pipeline, n'est-ce pas, puisque le whisky et la bière arrivaient directement du Canada par bateau ou par bateau essentiellement, et ensuite étaient diffusés dans tous les États-Unis. Et l'origine de sa fortune vient du commerce délictueux, donc de l'alcool.
Et alors, celui qui semble bien le connaître, qui date de cette époque-là, est un personnage qui s'appelle Meyer Wolfsheim.
Oui. Wolfsheim,
peut-être à l'américaine.
C'est très curieux, oui.
Comme Frankenstein.
Exactement.
Et c'est un mafieux de New York.
Oui, c'est un mafieux de New York, de la mafia juive, comme avait été Meyer Lansky ou
Arnold Rostin.
Le Bugsy Siegel, le créateur de Las Vegas. Enfin, c'est comme ça qu'on le connaît.
Est-ce que ça ne serait pas une des premières fois que le roman américain décrit ce qu'on appelle les tough Jews ?
Peut-être. peut-être, peut-être. Parce que c'est la prohibition qui a fait le crime organisé. Hein, enfin, l'organisation du crime organisé. Donc, la narration du le roman se passe en 1922. Donc, on est 4 ans après la guerre. La prohibition a dû commencer, je me souviens, en 17. Et on est... Je ne vais pas dire que c'est le début de la prohibition, mais enfin bon, elle est en marche. Hein. Et les familles des mafias se sont organisées à ce moment-là pour commercer, pour organiser le commerce comme d'habitude, ce qui est interdit. Et il y a quelque chose quand même qui m'a frappé, qui peut d'ailleurs frapper tous les lecteurs, c'est que. On est en 1922, en pleine prohibition. Et dans ce roman, on picole de
tout
bout
le temps,
en bout.
Tout le temps, oui, hein? Tout le temps.
Vraiment, là,
tout
prohibition, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Et alors, il faut dire que ce Gatsby s'est fait construire une grande maison, vous disiez, à Long Island, dans une localité qui s'appelle West Egg, qui est le côté nouveau riche par rapport au vieux chic de East Egg, et qui sont deux dénominations qui me semblent signaler, là, pour le coup, l'intention satirique de Fitzgerald, l'œuf de l'Ouest et l'œuf de l'Est.
Oui.
Non, probablement.
Oui, alors il a pris modèle sur, je crois que ça s'appelait East Neck et West Neck, qu'il a romancé. Hein. Mais il a pris des paysages réels.
Et donc, Gatsby s'est fait construire cette maison. À quel moment a-t-il changé de nom de Gatsby en Gatsby? Est-ce que c'est dit dans le roman? Je ne crois pas.
Hein. Je ne sais pas. En tout cas... On ne connaît pas son nom d'origine, on ne connaît pas. On le connaît tout le temps sous le nom de Gatsby. Du moins, quand il apparaît, cet homme qui jaillit, en quelque sorte, c'est Gatsby. C'est plus tard qu'on saura qu'il avait un autre nom, qu'il avait un vrai nom, hein, et qu'on connaîtra son passé. C'est quand il se confesse, en fait, au narrateur.
C'est aussi dans cette maison, enfin c'est surtout dans cette maison que Gatsby organise des fêtes.
Oui.
Fitzgerald avait dédié Tendre la nuit à des amis avec la mention en deux langues many fêtes. Alors là, ce sont pas tout à fait les mêmes. Les fêtes de Gatsby sont des fêtes où il achète des gens, où il essaie d'attirer des gens, où ce qui se sent bien, me semble-t-il, dans le film, d'autre part assez vulgaire, de, je ne sais pas ce que vous en pensez, de Baz Luhrmann.
Que je n'ai pas vu.
Ah.
Que je n'ai pas vu.
En tout cas, les fêtes de Gatsby lui servent à attirer du monde.
Oui, oui,
ça va attirer du monde. Les fêtes
tapageuses. Il y a même un début de chapitre dans lequel Scott Fitzgerald se livre à quelque chose qui est assez curieux. C'est une longue énumération des gens qui sont invités.
Oui, magnifique.
Alors on peut se dire, tiens, au bout d'un moment c'est ennuyeux, etc. Mais en fait non, ça a une vraie valeur, c'est-à-dire qu'on voit le standing des gens qu'il invite, et en réalité pourquoi il les invite. Cette énumération qui est curieuse, elle est parfaitement à sa place.
Parfait.
Elle est parfaitement à sa place.
Les simples noms des personnages disent quelque chose de tout à fait. Oui, c'est passionnant. Et puis, ces fêtes, c'est aussi, il faut le dire, pour attirer une femme.
Eh oui.
Car avant de partir à la guerre, il a fait la connaissance d'une femme.
Il a fait la connaissance de Daisy. Daisy et ils sont tombés mutuellement follement amoureux. Deux obstacles se posent à lui. La première, c'est qu'il doit partir à la guerre. Et la deuxième, c'est qu'ils ne sont pas du tout du même milieu. Elle est d'un milieu très chic, riche, vieille richesse. Hein. Et Gatsby n'est personne. Hein. C'est un brolo. Hein. Et Gatsby va tout faire pour essayer de rentrer dans ce monde par effraction, hein, en disant voilà, avec une richesse je serai de plein pied avec ces vieilles richesses. L'ennui, c'est qu'il est nouveau riche et que les autres sont des anciens riches, si je puis dire, des vieux riches. La famille de Daisy en particulier, Daisy qui est mariée.
Oui, c'est ça.
Elle s'est mariée.
Elle a un enfant.
Elle a un enfant.
Un petit enfant. Son mari la trompe.
Son mari la trompe, mais son mari est un ignoble personnage.
Oui.
Hein, c'est bon, il est lui-même d'une richesse extravagante. Hein, mais c'est, il est, il est, il est, il est, il est grossier, il est brutal, il est méchant. Et puis il la trompe allègrement.
L'histoire est d'ailleurs racontée, vous l'évoquiez tout à l'heure, par un narrateur qui est un cousin des Inès Brown.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui est un co-légionnaire de Tom Buchanan aussi, du mari de Daisy. En fait, il les connaît très bien. Et d'ailleurs, ce qui va permettre au à Gatsby de demander au narrateur d'organiser un rendez-vous pour organiser donc finalement les retrouvailles de Daisy et de...
Et là, ça se passe très mal.
Et de Gatsby. Ça se passe d'abord très bien.
D'abord très bien et à un certain moment...
Et Gatsby va échouer.
Alors, il faut raconter ce qui s'est passé. Ils vont à New York ensemble.
Il semble, quand on lit le roman, il semble avoir renoué des relations plus qu'amicales, amoureuses, sans pour autant que Jay trompe... trompe Tom. Enfin,
il faut dire qu'ils partent pour New York pour compléter ce que vous disiez sur l'habillement extravagant de Gatsby dans une Rolls-Royce jaune, déjà un signe du côté un peu tapageur, très tapageur de Gatsby.
Oui, et puis en même temps...
Et enfantin, peut-être.
Enfantin, oui.
Et donc, ils vont à New York.
Et
puis, il y a un retour en voiture. Ou qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, en retour en voiture, c'est Daisy qui conduit. Gatsby lui a laissé le volant. Daisy conduit et est arrivé dans un lieu à côté d'une sorte de garage complètement paumé. Mais dans ce garage vit donc le garagiste et sa femme. Mais sa femme, c'est la maîtresse de...
Du mari de Daisy.
Et cette femme voit arriver la voiture et se précipite sur la route pour l'arrêter et se fait renverser et se fait tuer. Voilà. Et drame, évidemment. Et Gatsby ne va jamais dire que c'est Daisy qui conduisait. Donc, immédiatement, le doigt se pointe sur Gatsby et ce sera la fin de Gatsby.
C'est-à-dire que Tom, le mari de Daisy et l'amant de cette femme, revient à West Egg.
Il se passe deux choses. Le premier, c'est que Tom, le mari de Daisy, finalement a compris et il va prendre Daisy entre quatre yeux et ils vont passer une longue soirée à discuter. On ne le sait pas, nous lecteurs, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais on le sait parce que le narrateur est allé voir et voit par la fenêtre Daisy et son mari main dans la main à la cuisine en train de manger du poulet et parler très gravement. Et à ce moment-là, le mari de Daisy lui dit. On peut supposer qu'il lui met le marché en main, il est truqué, parce que avec Tom Buchanan, elle a, avec son mari, elle a un statut, elle a la belle vie, elle a un enfant, et elle a la sécurité. Avec Gatsby, elle aurait probablement l'amour, mais quelque chose de totalement autre. Elle ne prend pas le risque, elle ne veut pas. Donc finalement, par lâcheté, on peut le comprendre comme ça, du moins c'est comme ça que le narrateur le sous-entend. Par lâcheté, elle va refuser Gatsby. Et dès lors, la vie de Gatsby est terminée.
Et
Et effectivement, elle deviendra terminée, puisque Gatsby se fait tuer par le mari... de la femme qui a été tuée sur la route.
Et on retrouve son corps flottant dans la piscine. Par ironie, il ne s'était pas baigné de l'été.
C'est la première fois où il goûte la piscine de cette bâtisse. Il est dedans et il se fait tuer. Mais en fait, il est déjà mort. Parce que la vie de Gatsby est finie. Il a tout fait pour conquérir Daisy. Il a été un héros de guerre, il a construit une fortune, il s'est installé à West Egg, il a fait des fêtes pour l'attirer, elle ne vient jamais. Elle ne vient pas. Et elle le refuse. C'est fini, je veux dire. Et d'ailleurs, sa maison, à ce moment-là, part à volo.
Nous allons maintenant entendre Love is Drug par le Brian Ferry Orchestra, musique du film Gatsby le Magnifique, réalisé par Baz Luhrmann. Il date de 2013. To wait for the bell to ring. Jean-François Merle, il y a une naïveté dans ce Gatsby qu'on pourrait croire cynique, et cette naïveté nous est signalée par Fitzgerald dans son roman, et cette naïveté, je crois, réside dans la lumière verte. Est-ce que vous pouvez me dire brièvement ce que c'est que cette lumière verte ?
Oh, cette lumière verte ! Il y a une image étonnante qui d'ailleurs a fait la couverture de l'édition américaine. C'est que le garage en question, le garage dont il est question, est à côté est au centre d'une zone qui est un gigantesque crassier, et auprès duquel passe le train. Et donc le narrateur et tout le monde voient ce crassier en passant en train. Et ce crassier est surplombé par une enseigne publicitaire pour un oculiste, et qui montre d'immenses lunettes vertes. Alors c'est une image qui est très curieuse dans le roman, et qui semble très secondaire et qui en même temps est assez symboliquement assez importante.
Très importante. Oui, ça a l'air d'être les yeux qui jugent symboliquement.
C'est ça.
Je dois dire que d'ailleurs, ça m'a intrigué, ça, et j'ai fait faire des recherches, et les premiers panneaux publicitaires aux États-Unis datent des années 1830, donc c'était assez ancien. Il y avait déjà des panneaux sur les bords des routes pour les couvertures pour les chevaux ou les pilules pour le rhumatisme. La première affiche de grand format ayant été créée à New York en 1835, c'était une publicité pour un cirque. Donc c'était déjà une chose, moi je pensais que, avant de savoir ça, que c'était une chose très moderne que décrivait Fitzgerald, et en fait c'est antérieur. En tout cas, ces lunettes sont ces espèces de jugements aveugles des personnages.
Oui, et c'est une image très fantomatique, en même temps, parce que ce crassier l'est.
Et donc la lumière verte.
Et cette lumière verte, oui.
Et alors Et je vais vous dire les dernières lignes du roman que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui l'avez traduit. Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui d'année en année recule devant nous. Il nous a échappé, qu'importe, demain nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin, et un beau matin, c'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. Gatsby, en fait, n'a pas pu échapper à son passé.
Oui.
C'est ça, non ?
Oui, aussi. Il y a une chose auquel j'ai souvent pensé, c'est qu'il y a une part, je ne vais pas dire d'autobiographie dans Gatsby, mais Scott Fitzgerald, ou plutôt Gatsby, a agi comme Scott Fitzgerald, chaque chose étant égale par ailleurs. Parce que Scott Fitzgerald et Zelda, sa femme, celle qui deviendra sa femme, sont tombés très amoureux l'un de l'autre, et de la même façon, ils ne sont pas du tout du même milieu. Zelda est quelqu'un de la haute société, ce que n'est pas Scott Fitzgerald.
Qui est de la bourgeoisie déclassée.
Et il ne va avoir de cesse que de la conquérir. Et c'est pour la conquérir qu'il va écrire « This Side of Paradise ». C'est pour ça, et c'est grâce au succès de This Side of Paradise qu'il réussira à montrer qu'il est quelqu'un. Hein? Donc la démarche de Scott Fitzgerald pour conquérir le cœur de Zelda est exactement le même, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr.
Non, les faits sont différents, mais les sensations sont les mêmes.
Voilà, sauf que Scott Fitzgerald a épousé Zelda,
oui,
et
ça.
Que Gatsby n'épouse pas.
Je dois d'ailleurs dire que je signalais au début qu'un des titres de travail était Trimalcion, et que c'est Zelda à qui je trouve pourtant beaucoup de défauts, mais qui lui a conseillé de choisir plutôt Gatsby le Magnifique.
Oui, enfin, ils ont pas mal hésité ouais. Parce que c'est presque par défaut que The Great Gatsby a été pris. Scott Fitzgerald avait pas mal. Il y a toute une correspondance avec son éditeur Maxwell Perkins dans laquelle ils essaient de choisir un titre. Et je dois dire que c'est le titre qu'ils choisissent par défaut, mais en réalité, c'est le meilleur.
Bien sûr.
Parce que The Gold-Hatted Gatsby, Gatsby au chapeau doré, si je puis dire, ou chapeau en or,
Et je dois dire que le premier traducteur français qui a choisi de traduire Great par Magnifique a une très bonne
formidable.
Idée.
Formidable. Hein, mais elle est très bonne. La traduction de Victor Lyonnais chez au Sagittaire est très bonne. Hein.
D'ailleurs, vous venez de citer Maxwell Perkins et il faut dire que Fitzgerald était un écrivain, disons, au génie spontané, mais au talent parfois paresseux, et que c'est Maxwell Perkins qui lui a donné l'idée de retarder la connaissance de Gatsby tout au long du roman. Parce que dans les premières versions, on savait tout de suite, et c'est lui qui lui a conseillé de procéder par touche et par...
Il a eu raison.
Ça dit peut-être que Fitzgerald l'aurait découvert en travaillant, mais il
a mis 10 mois à l'écrire. Hein. Ça a été une écriture pénible. Il a sorti ses tripes pour écrire.
Enfin, il faut préciser que Gatsby. C'est pour ceux qui ne le sauraient pas que c'est 10 mois pour 150 pages. Enfin, donc,
oui, voilà, c'est un roman très court. Et d'ailleurs, lui-même dit qu'avec ce qu'il a écarté, il aurait pu donner un roman plus long.
Alors, par rapport aux autres personnages de Fitzgerald, comment est Gatsby ? Moi, j'ai un peu l'impression qu'après avoir décrit des fils de famille ou des bourgeois comme dans Tendre et la nuit ou Heureux et damné, tout d'un coup, avec Gatsby, il passe à des outcasts, à des gens qui... Et ce qui se poursuivra après avec Monroe Starr, le personnage de...
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'il a voulu écrire réellement une tragédie et qu'il a réussi. Il a réussi. Et de ce fait, il a planté un personnage qui n'est effectivement pas quelqu'un de la upper class comme il le faisait avant. Mais il y a une grande rupture, de toute façon, entre les nouvelles, parce que c'est un nouvelliste exceptionnel. Entre les nouvelles qui sont souvent drôles, amusantes, avec des personnages souvent très sympathiques et positifs et joyeux. Parce que Gatsby...
Pardon de vous interrompre, mais Retour à Babylone n'est pas sympathique et joyeuse.
Pas tout, mais globalement, si vous voulez, il y a quand même un esprit année folle qui est vraiment présent. C'est frénétique, on danse, on s'amuse, on boit. Dans Gatsby, d'accord, on danse, on s'amuse, on boit, mais c'est pas gay. C'est pas gay. Il n'y a pas de bonheur dans Gatsby. Il y a une espérance de bonheur, mais il n'y a pas de bonheur. Malgré le luxe, malgré l'argent qui coule, malgré l'aisance apparente.
Ça fait probablement partie d'une chose que je trouve on ne voit pas beaucoup. On dit que Fitzgerald est un écrivain romantique. Il me semble qu'il est beaucoup plus un écrivain naturaliste. Il fait partie dans cette veine. Vous avez dit une tragédie tout à l'heure. Il n'est pas si loin. Il a beaucoup plus de talent, mais de Dreiser qui a écrit une tragédie américaine.
Une tragédie américaine.
Dans les interprètes au cinéma de Gatsby, entre Alan Ladd, je dois dire que j'ai pas vu la version avec Alan Ladd en 49. Il y a eu Redford que moi j'ai un peu trouvé sa voix nette. Et puis il y a DiCaprio.
Moi j'avais vu à l'époque, mais j'étais très jeune. J'avais vu Redford et je trouvais qu'il était parfait. Et surtout Daisy, c'est eux que j'aurais pris.
Daisy étant...
C'est Mia Farrow.
Mia Farrow. Et il me semble que DiCaprio, je ne sais pas ce que vous en pensez, est un Gatsby plus intéressant.
Il est plus intéressant. Il l'incarne très bien et quand on le voit, oui, c'est aussi Gatsby.
Jean-François Merle, que vous a appris le personnage de Gatsby ?
C'est une question difficile parce que spontanément, je dirais qu'il ne m'a pas appris grand-chose. Je n'ai pas appris grand-chose parce que je le connaissais. Je le connaissais depuis assez longtemps. En revanche, Scott Fitzgerald, pour moi, a une importance considérable. Je l'ai découvert vraiment à l'adolescence. Et ça a été avec Hemingway, Steinbeck et Dos Passos. Ça a été pour moi l'ouverture de la littérature américaine. C'est vraiment... de ces gens-là, j'ai lu tout. Donc, pour moi, Scott Fitzgerald, c'est un jalon, si vous voulez, dans ma vie, plus que Gatsby. J'ai été beaucoup plus impressionné à l'époque par Tendre et la nuit, qui est un roman plus long. Mais je pense que la première fois que j'ai lu Gatsby, j'étais trop jeune. C'est pas une lecture de très jeunes gens.
C'est vrai. C'était Personnage en personne, le 82e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Guillaume Tell, inventé par la Suisse pour sa gloire et son fantasme.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, prise de son Valérie Lavalard. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.